Marie-Elisabeth Braddon. Vixen. Tome 2. Chapitre 26. Depuis 3 mois, le capitaine était le maître à l'abbaye, et il n'y avait pas encore eu de querelle ouverte entre Vixen et lui. Vixen était froide comme du marbre, mais elle était polie, elle se contenait pour sa mère. Elle se rappelait ce que Roderick lui avait dit de ses devoirs, qu'elle s'efforçait de remplir de son mieux, quoi qu'il en coûtât à sa nature indisciplinée. Elle avait même accepté avec tranquillité la perte de Titmouse, le premier cadeau de son père, le cheval qu'elle montait à 7 ans, chasseresse précoce, aux cheveux flottants sous sa petite toque de velours. Elle ne laissa rien paraître de son indignation. La vente de Bullfinch l'avait jetée hors de ses gonds, mais cette fois elle garda son chagrin pour elle, et si elle pleura, personne ne s'en aperçut. « Le capitaine trouve que nous avons trop de chevaux et de poneys, ma chérie », lui avait dit sa mère en lui annonçant le sort de Titmouse. « Et vous savez que votre père était toujours disposé à faire des folies pour ses écuries. Mais certainement, on vous laissera toujours à Rion. »« J'en suis bien aise, maman », répondit gravement Vixen. « S'il me faut renoncer au premier poney que m'ait donné mon père, du moins n'aurai-je pas le chagrin de perdre le dernier cheval que je tienne de lui. » Au capitaine, Vixen ne dit pas un mot de Titmouse, et il n'eut pas à lui expliquer ses plans. Il agissait, du reste, comme si la volonté du ciel lui avait confié le gouvernement de l'abbaye et de tout le domaine, et comme si Mrs. Winstanley et sa fille ne figuraient que comme de simples comparses sur la scène où ils jouaient le premier rôle. Malgré le système d'économie nouvellement inauguré à l'abbaye, les choses n'avaient jamais été faites avec plus de dignité et de style. Du temps du baronnet, c'était le vieux jeu, une aisance familière, une libéralité d'ancien régime, quelque chose de bon enfant dans le bon ton, des façons de grand seigneur populaire. Le nouveau règne était d'une modernité plus apprêtée, une règle savante, une ligne sévèrement suivie, une méthode rigoureuse, mais d'une perfection absolue. Pas une mode nouvelle de Belgravia Square dont le capitaine ne fût au courant, qu'il s'agît d'une marque de champagne ou d'un petit carton à inscrire au menu. Il avait rompu avec les plantureux et coûteux dîners vieux style dont le baronnet ne s'était jamais départi, turbos monstres et saumons géants qui faisaient vaciller les domestiques et menacer les convives, dindes de concours, bonnes à mériter le grand prix dans quelque exposition de volaille. Tous ces léviathans du marché furent condamnés sans rémission. À ces repas d'une splendeur rurale succédèrent des dîners plus raffinés, plus élégants, moins dispendieux sans qu'il y parût. Dîners à la russe et menus parisiens que le capitaine composait avec soin, étudiant Gouffet et le baron Brice, aussi religieusement qu'un rabbin interprète le Talmud. Le couvert, grâce à la vaisselle d'argent du baronnet et à son beau service de porcelaine en vieux Worcester bleu foncé, rehaussé de fleurs de serre et de fougères pittoresquement groupées par le capitaine, faisait une admirable nature morte qui aurait tenté Berne Bellecour, Philippe Rousseau et Blaise de Groff. Ce fut un succès d'enthousiasme au premier dîner du capitaine. La vieille salle à manger avait subi des transformations analogues. Et la sévérité de son luxe d'autrefois avait fait place à des grâces dernière façon, dont les convives furent ravis. Mrs. Winstanley en tremblait de plaisir, assise en face de son nouvel époux, le jour de ce dîner inaugural. « Ma chère, je suis enchanté que vous soyez satisfaite, lui dit-il. J'arriverai, j'espère, à vous prouver qu'économie ne veut pas dire mesquinerie. » Nos dîners ne seront pas fréquents, mais ils seront parfaits dans leur genre. Autre innovation du capitaine, Mrs. Tempest était chez elle presque tous les jours l'après-midi, recevant qui venait, prenant le thé et causant des menues nouvelles qui alimentent les conversations mondaines. Désormais, Mrs. Winstanley aurait son jour de réception, comme Lady Ellen Gowan. Des cartes, élégamment gravées sur cuivre, firent savoir à ses amis qu'elle serait chez elle le mardi de 3 à 6. C'était leur dire, sans en avoir l'air, qu'on ne la trouverait pas tous les autres jours. Mrs. Winstanley se figurait qu'elle montait d'un échelon parce qu'elle avait son jour. Et le capitaine se disait que c'était autant de prix sur les ragots de boudoir. Autant de gagner aussi sur le thé à 5 shillings, la crème et les petits gâteaux. Rentrés à Ashbourne avec Lady Mabel un peu avant la Noël, le duc et la duchesse de Dovedale vinrent à l'un des mardis de Mrs. Winstanley, accompagnés par Roderick Vaudrey. Ils avaient les intentions les plus cordiales. La duchesse se déclara charmée du château, et surtout du hall lambrissé de vieux chênes. « Cela me rappelle un peu, disait-elle, notre château d'Écosse. Mais j'aime mieux le vôtre. Il a l'air plus habité, plus aimable, plus hospitalier. » En Écosse, tout a l'air rocailleux, c'est un pays de granit. Mrs. Winstanley était enchantée d'entendre dire que sa demeure ressemblait à une résidence ducale. Votre castel écossais est beaucoup plus ancien que celui-ci, dit-elle en minaudant modestement. Nous ne datons que du règne de Henri VIII. La première construction date de Henri Ier, mais il n'en reste que l'arcade qui se trouve à l'entrée des écuries. « Notre château est presque aussi vieux que les montagnes, » répondit la duchesse. « Ses murs ont bien 10 pieds d'épaisseur. Et nous avons une avenue plantée d'ifs qui date de 1000 ans, dit-on. Mais tout cela n'empêche pas le duc d'y attraper des bronchites chaque fois qu'il y va. » Vixen était assise près de sa mère. Elle portait une robe vert foncé, pareille à celle qu'elle avait lors de sa dernière rencontre avec Roderick. Celui-ci se rappelait combien elle était jolie ce jour-là, animée par sa lutte avec les chiens de chasse. « Si Landseer avait vécu pour peindre ce tableau, pensait-il, j'aurais donné une petite fortune pour l'avoir. » Lady Mabel fut extrêmement gracieuse avec Violette. Pour se mettre au niveau de Miss Tempest, elle parla chiens, chevaux, fit l'éloge de la forêt, causa un peu chiffon, puis, finalement, demanda à Violette si elle aimait Chopin. « Je crains de ne pas être assez forte pour l'apprécier comme il le mérite, » répondit franchement Vixen. « Vraiment, quel est votre compositeur préféré ?»« C'est Mozart, je crois, » répondit Violette, assez embarrassée. « En vérité, » reprit Mabel, comme si elle n'en revenait pas, « ne trouvez-vous pas ces vieux airs terriblement naïfs ?» « J'aime les vieux airs, » répondit Violette, bien décidée à ne pas céder le pas. « Je donnerai toutes les ballades de Chopin pour « Voike sapete » ou « Bati bati ».»« Si vous connaissiez mieux Chopin, vous ne diriez pas cela, » ajouta Lady Mabel d'un ton de reproche amical. « Quand viendrez-vous voir nos serres ?» demanda-t-elle gracieusement. « Maman est chez elle ce mercredi. J'espère que Mrs. Winstanley et vous viendrez voir ma nouvelle serre aux orchidées. » Papa l'a fait construire d'après les plans les plus nouveaux. Si vous n'appréciez pas Chopin, du moins je suis sûr que vous aimez les fleurs. » Violette rougit. Roderick la regardait avec un sourire malicieux. Il était assis un peu plus loin dans un vieux fauteuil bas, le menton sur les genoux, dans une attitude gauche et ennuyée. « Je ne crois pas que Violette donnerait 2 pence de vos plus belles plantes. » Et votre Dendrobium Pharmosum ne lui ferait pas plus d'effet qu'à moi-même. Mais je les admire, ou du moins, riposta Vixen, je les admirerais beaucoup si je pouvais les voir dans leur pays natal. Mais je ne les ai jamais beaucoup appréciés dans une serre chaude, je préfère les bleuets de nos champs. Vous peignez probablement, les fleurs des champs font de très jolis motifs, n'est-ce pas? Oh, du tout, je ne possède aucun talent. Et Vixen rougit plus fort. « C'est faux, » répliqua Rory. « Elle fait de magnifiques esquisses à la plume, au crayon. Le paysage aussi bien que la tête, et cela avec un réel talent. » La duchesse, qui venait de décrire à Mrs. Winstanley les toilettes les plus remarquables des villes d'eau allemandes, se leva, et Lady Mabel en fit autant. « Nous serons enchantés de vous voir à Ashbourne, » murmura-t-elle, en donnant à Violette sa main finement gantée de gants gris-perles. La toilette de la jeune héritière était fort simple. Mais aux yeux de Vixen, cette simplicité exagérée semblait vouloir dire « Je suis la fille unique du duc, mais je ne veux pas vous éblouir. » Aussi accepta-t-elle l'invitation avec politesse, mais sans aucun enthousiasme. Si Lady Mabel avait entendu ce que Miss Tempest se disait à elle-même, tandis que l'équipage des Dovedale ramenait à Ashbourne la duchesse, sa fille et Roderick, qui, de sa place au moment du départ, souriait encore à sa jeune amie d'enfance. « J'ai peur, » pensait Vixen, « j'ai peur d'avoir un malicieux penchant à détester les gens. Je me sens presque aussi mal disposée pour Lady Mabel que pour le capitaine Winstanley. » « Sont-elles assez exquises ?» dit Mrs. Winstanley, radieuse, lorsqu'elle fut seule avec sa fille. « Les galettes de Mrs. Trimmer, » interrompit Vixen, qui en croquait une debout près de la table à thé. « Oui, elles sont toujours excellentes. »« Vous êtes folle, Violette. Je parle de la duchesse et de sa fille. » Vixen étouffa un bâillement. « Je suis bien aise que vous ne trouviez pas la duchesse horriblement fatigante, » dit-elle. « Lady Mabel me fatiguait comme un cauchemar. »« Oh, Violette, elle est si aimable avec vous, si douce, si caressante. » « Réellement, vous devriez cultiver son amitié. Ce serait si agréable pour vous d'être reçu à Ashbourne. Vous auriez tant d'occasions. » « De quoi, maman ? D'entendre des polonaises, des mazurkas, avec 7 doubles bémols à la clé, de voir des fleurs aux noms aussi prolongés que les adjectifs composés les plus rébarbatifs de la langue allemande ? Des occasions d'être vues et admirées par des jeunes gens de bonne famille. » Tôt ou tard, le moment viendra pour vous de penser au mariage. Ce moment-là ne viendra jamais, maman. Je vous tiendrai compagnie jusqu'à ce que vous soyez lasse de moi. Et si vous me renvoyez, j'aurai une maisonnette au cœur de la forêt, avec ma vieille Miss McCroke pour compagne. Je passerai mes journées à herboriser, à monter à cheval, peut-être apprendrai-je à peindre mes arbres favoris, et je vivrai aussi heureuse et aussi isolée du monde que l'oiseau qui fait son nid entre les plus hautes branches du hêtre. Heureusement que personne ne vous entend, Violette. Pourquoi, maman ? Parce qu'on supposerait que probablement vous n'avez pas tout votre bon sens. La visite de la duchesse mit Mrs. Winstanley en belle humeur avec tout le monde, mais spécialement avec Roderick Vaudrey. Elle lui adressa une invitation pour son premier dîner. À sa grande surprise, son mari fit mine de rayer ce nom de la liste des invités, mais elle revendiqua son droit de choisir elle-même ses convives. « Je ne comprends pas vos raisons pour inviter ce garçon-là, » dit le capitaine presque brutal. « Et pourquoi ne l'inviterais-je pas, Conrad ? Je l'ai connu tout enfant, et le baronnet l'aimait beaucoup. Si vous choisissez vos amis d'après les goûts de votre premier mari, ce ne sera pas flatteur pour le second. Quelles objections avez-vous à faire contre Roderick ? J'en ai une très sérieuse, mais dont je ne veux pas encore parler. Mais cependant, si c'est quelque chose que je doive savoir, questionna Mrs. Winstanley, un peu alarmée. Quand je croirai que vous devez le savoir, je vous le dirai, ma chère Pamela. En attendant, permettez-moi de garder mon opinion sur M. Vaudrey. « Mais Conrad, du vivant d'Edward, il venait aussi souvent qu'il lui plaisait, comme un proche parent, et puis rappelez-vous qu'il est le neveu de la duchesse, qu'il épousera Lady Mabel, et qu'à la mort du duc, il sera l'un des plus riches propriétaires du South Hampshire. »« Eh bien, invitez-le, cela n'a pas grande importance du reste. »« Maintenant, vous voilà fâché, Conrad, » dit Mrs. Winstanley avec tristesse. « Non, non. » « Mais je réserve mon opinion sur votre idée de donner le moindre encouragement à M. Vaudrey. » Voilà qui sonnait mystérieusement aux oreilles de Mrs. Winstanley, inquiète et mal à l'aise. Mais elle était bien résolue à ménager la duchesse, qui avait été si gracieuse et qui leur avait envoyé une invitation à dîner pour le dernier jour de l'année. Roderick fut donc invité, il accepta avec plaisir. Maintenant qu'il était maître des chasses, il passait une bonne partie de son temps à chasser. Il était devenu un personnage important, très occupé, mais il trouvait toujours le temps de venir au mardi de Mrs. Winstanley. Et alors, il causait avec Violette et caressait Argus, tandis que les dames babillaient tout en dégustant leur thé. Le dernier dîner de Mrs. Winstanley devait avoir lieu quelques jours avant Noël. Il était donné en l'honneur des amis venus passer leurs vacances à l'abbaye. Parmi les invités était un Irlandais, ami du capitaine, Lord Mallow, l'acquéreur de Bullfinch. En apprenant son arrivée, Violette fut toute bouleversée. « Encore quelqu'un à détester, se dit-elle presque au désespoir. Je deviens méchante et haineuse. » Lord Mallow avait passé sa première jeunesse à l'armée. Il s'appelait alors Patrick Hay. Le capitaine Winstanley et lui étaient frères d'armes, et rien de particulier ne l'avait signalé à l'attention de ses contemporains, lorsque la mort de son frère aîné vint l'appeler à un brillant héritage. Il n'hésita pas à renoncer à son grade subalterne dans un régiment de ligne pour prendre le titre de vicomte Mallow, qui lui revenait avec la propriété d'une jolie et fertile étendue de vallées et de collines dans le comté de Cork. Il s'était immédiatement posé en seigneur modèle, plein de sollicitude pour ses tenanciers, politicien violent aux idées avancées, radicales. Si l'Église irlandaise n'avait pas été destituée de ses privilèges avant l'entrée de Lord Mallow au Parlement, nul doute qu'il eût porté la cognée jusqu'aux racines de ce vieil arbre. Protestant et loyalement attaché à l'Église pour son compte personnel, si tant est que la loyauté à cet attachement fût attestée par sa présence au service divin du dimanche et la politesse courtoise de ses révérences aux évêques, il tenait pour la dernière des injustices que l'établissement d'un clergé étranger fût imposé à son pays natal. Le précédent Lord Mallow avait été un Tory de la vieille roche, conservateur jusqu'à la moelle des os. Le nouveau Lord Mallow était Irlandais des pieds à la tête, apologiste enthousiaste des vertus de l'Irlande, fanatique des griefs de l'Irlande. Il avait la passion du disestablishment. Il voyait sa patrie avec les yeux des poètes qui l'ont chantée. Elle lui apparaissait sous les traits d'une belle femme aux cheveux en désordre, opprimée par le cruel Saxon, adorable victime pour la délivrance de laquelle tout homme de cœur était tenu de combattre jusqu'à la mort. Il dénonçait les outrages du règne d'Élisabeth, les cruautés des soldats de Cromwell, les sauvageries de Jinkel. Comme si tous ces faits dataient de la veille et que la Chambre des communes d'aujourd'hui en fût responsable. Ces fiers discours, textuellement reproduits par les feuilles locales, retentissaient jusqu'au fond de l'Irlande. Orateur bien doué, abondant, il avait de la voix et une certaine énergie qui dominaient son auditoire chaque fois qu'il reprenait son thème habituel des griefs de la vieille Irlande. Lord Mallow n'avait pas 30 ans, et il paraissait plus jeune que son âge. Grand, robuste, aux épaules larges, il avait le type irlandais, des yeux bleus souriants, des cheveux noirs, des dents blanches, des favoris épais et un teint assez coloré. « Il est tout à fait ordinaire, » dit Vixen à sa mère, le jour de son arrivée à l'abbaye. « Un type parfait de banalité. » « Allons, Violette, avouez franchement que c'est un fort beau garçon, » dit Mrs. Winstanley, tout en se prélassant paresseusement devant un feu bien flambant. « Je n'ai, je crois, jamais vu d'aussi belles dents, car à son âge, elles ne sont pas fausses. « À moins, cependant, maman, qu'il n'en ait perdu quelqu'une à la chasse. Vous savez bien que les Irlandais aiment les jeux de casse-cou. Un malheur peut bien lui être arrivé. Tâchez donc, Violette, de vous défaire de ses façons de parler. C'est un jeune homme charmant. Voyez comme le thé lui a fait plaisir après son voyage. » Il n'a même pas songé à demander un grog. Conrad m'a dit qu'il avait un château splendide près de Mallow, sur le versant d'une montagne. C'est, je crois, un des sites les plus fertiles de l'Irlande. Et il paraît que ses paysans sont très heureux. Je ferais bien, je crois, de vous laisser vous habiller pour le dîner, maman. Il vous faut une bonne heure, et il est près de 6h30. Allons, ma chérie, sonnez vite, Pauline. Je ne sais quelle robe choisir. J'hésite entre ma toilette de velours noir et maïs et ma robe en velours améthyste. Dans tous les cas, je mettrai du velours. Et vous, Violette, quelle robe mettrez-vous ? Moi, mais n'importe, celle d'hier soir. Mais elle est affreuse, un vrai paquet. Mettez quelque chose de mieux, la robe que vous aviez à mon mariage, par exemple, insinua Mrs. Winstanley, tout en rougissant. Elle vous sied à ravir. Maman, je n'ai pas envie de me costumer en demoiselle d'honneur pour les beaux yeux de Lord Mallow. Non, d'ailleurs, ce costume me rappelle un jour pénible. Pour qu'il ne soit pas mangé par les mythes, j'en ferai un jour un couvre-pied ou une housse de fauteuil. Les tempestes des générations à venir le montreront comme une relique de leur grand-tante Violette. « Je n'ai jamais rien entendu d'aussi absurde !» s'écria Mrs. Winstanley, irritée. « C'est un chef-d'œuvre que certainement Théodore me comptera à un prix fou. »« Ah, maman, que de choses nous payons horriblement cher !» riposta Vixen avec un élan de tristesse et un accent d'amertume involontaire.